Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons donc notre réflexion de théologie sur les fins dernières à travers le livre du Père Philippe-Marie Margelidon, dominicain de la province de Toulouse, recteur de la faculté théologique de Toulouse, donc à travers son livre sur les fins dernières. Nous avons consacré les dernières émissions sur ce chapitre, sur l'âme séparée, l'état de la béatitude pour l'âme séparée, c'est-à-dire séparée du corps évidemment, qui rejoint aussi ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Nous allons aujourd'hui entamer un nouveau chapitre, mais avant cela donc revenons un peu sur le plan de notre exposé à travers ce livre sur les fins dernières. Nous avons vu tout d'abord, quand nous parlons des fins dernières, bien sûr nous parlons de réalités futures, donc qui commence ce cheminement qui commence après notre mort. Donc, le premier aspect que nous avons vu, bien sûr, c'est la mort en elle-même, la mort dans le Christ. Qu'est-ce que signifie pour nous, chrétiens, eh bien, ce passage de la mort à la vie, Nous sommes tous voués à vivre cette Pâque à la suite du Christ, mort avec le Christ, à ressusciter aussi avec le Christ. Et donc, c'est la mort aussi, cette réalité, on pourrait dire réalité ontologique ou métaphysique, de la séparation de l'âme et du corps. Deuxième aspect, au moment de notre corps, comme nous le dit la doctrine catholique, eh bien, vient le moment du jugement, le jugement qu'on appelle le jugement particulier. Donc, nous nous sommes arrêtés pendant de nombreuses émissions aussi sur ce jugement de l'âme, donc au moment de la mort, toute personne humaine qui décède, et donc il y a ce moment, cette séparation de l'âme et du corps, et l'âme eh bien, compare devant Dieu pour le jugement particulier. Nous avons vu la distinction entre le jugement particulier, justement le jugement individuel, comme on l'appelle aussi, et le jugement universel, qui aura lieu à la fin des temps. Ensuite, nous avons vu dans les dernières émissions l'état de cette âme séparée qui rejoint, après son jugement, qui rejoint le lieu pour lequel il a été aussi destiné. C'est-à-dire Dieu nous destine tous au ciel, évidemment. Ça ne veut pas dire que tous nous irons au ciel, puisque nous avons aussi le libre arbitre. Là aussi, on l'a bien précisé. Ce libre arbitre qui consiste à choisir le Seigneur, à choisir Dieu, à choisir sa miséricorde et à choisir aussi cette vie bienheureuse qu'il nous propose. Dieu ne peut pas imposer la béatitude à l'âme. Il faut que la personne aussi y adhère de toute sa volonté. Alors, ça concerne aussi le jugement, évidemment. Ça rejoint le moment du jugement. Donc, après le jugement, l'âme, soit elle est déjà pure et sainte, sanctifiée, donc prête à voir Dieu, et donc, dans ce cas-là, elle entre tout de suite dans l'état de béatitude, qui est l'état, encore une fois, de la communion avec Dieu, pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu a créé aussi, il nous a créés comme personne humaine, âme et corps, pour que nous participions à sa béatitude. Et donc ça, c'est le plan de Dieu sur tout homme, le désir de Dieu pour tout homme. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Dieu veut qu'il se convertisse et qu'il vive. D'où l'importance, bien sûr, de notre choix, il s'exerce au cours de notre vie. C'est au cours de notre vie que nous posons ces choix pour ou contre Dieu, au fond. Et ces choix donc, ont un poids d'éternité, évidemment. Alors, l'état de l'âme séparée de Dieu qui entre dans la béatitude, nous avons vu dans nos dernières émissions que cette béatitude procure à l'âme justement une délectation complète de l'intelligence et de la volonté, l'intelligence qui se nourrit de la réalité et de la vérité première et plénière qui est Dieu, à travers la contemplation, la vision de Dieu, et qui procure aussi cette délectation aussi du côté de l'amour, hein, puisque le bien suprême eh bien, est pleinement atteint, et donc tous nos désirs aussi bien sont comblés, hein, par cette communion avec Dieu. Donc communion à la fois, on pourrait dire, au niveau de l'intelligence et de la volonté, notre intelligence qui s'oriente vers le bien, vers le vrai, et notre volonté vers le bien, vers l'amour. Alors nous allons entrer maintenant dans un autre chapitre, hein, qui est celui bien sûr du purgatoire. Hein. Qu'est-ce qu'il en advient de cette âme si elle n'est pas encore suffisamment purifiée ou sanctifiée, sainte pour entrer dans la communion plénière de la béatitude avec Dieu, hein. Parce que ne peut entrer en Dieu que ce qui est pur, que ce qui est saint. Elle ne peut participer à sa vie, bien sûr, que ce qui est en pleine harmonie, on pourrait dire, avec lui. Donc tout ce qui est encore à sanctifier, à purifier, eh bien, il y a cet état, hein, du purgatoire, qui est un état transitoire encore, donc c'est un certain devenir, hein, on ne peut pas le quantifier par nous-mêmes, hein, mais... c'est un devenir, on pourrait dire, un devenir qualitatif, hein, qui passe bien de l'imparfait vers le parfait. Donc, cet état du purgatoire, eh bien, elle est donc nécessaire à l'âme, hein, qui est encore attachée, hein, à certains péchés. Donc, l'âme veut la communion avec Dieu, hein, l'âme est destinée à la vie bienheureuse. C'est pour ça qu'on dit que tous ceux qui sont au purgatoire ont la certitude d'être sauvés, hein. Et on sait que voilà, si nous sommes au purgatoire, nous serons sauvés parce que nous voulons, hein, cette communion avec Dieu, parce que nous le choisissons. Mais nous sommes encore attachés à des péchés qui n'ont pas été expiés ou purifiés, sanctifiés, hein, ici sur terre. Alors, en théologie et en théologie mystique en particulier, nous voyons que le Christ, hein, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui expie pour tous nos péchés, hein. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi notre participation. On ne va pas au ciel sans mérite. C'est aussi une hérésie dans l'Église, hein, qui a été déclarée, de penser que nous pourrions aller au ciel comme ça sans aucun mérite de notre part, puisque de toute façon, tous les mérites reviennent au Christ lui-même. Donc nous n'avons aucun mérite pour nous gagner le ciel. Donc ça, c'est une hérésie qui a été condamnée, je ne sais plus exactement par quel concile, mais vous pouvez le rechercher par vous-même aussi. Mais donc toujours est-il que nous devons aussi bien collaborer avec la grâce de Dieu et aussi collaborer à notre sanctification, à notre purification. Et puis... Donc, c'est le chapitre que nous allons entamer donc aujourd'hui. Et nous verrons aussi plus tard, hein, eh bien, le dernier aspect, hein, qui est celle de l'âme séparée, mais pour la damnation cette fois, pour la séparation définitive avec Dieu. Donc, qui ne bénéficiera pas, hein, et jamais de la vision bienheureuse, puisque par un choix libre aussi, elle a refusé cette communion avec Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle l'état de la damnation. Alors là, ici, il y a un ordre qui est très important à respecter. Nous voyons que nous avons parlé tout d'abord de la béatitude, parce que c'est le bien véritable et suprême, hein, que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est l'unique volonté de Dieu pour nous. Dieu, encore une fois, ne veut pas, hein, que nous nous perdions, mais il veut que nous participions à sa gloire. Et ensuite, nous voyons comment nous allons participer à cette gloire, hein, donc imparfaitement, ou bien nous allons refuser, hein, cette communion, cette participation, donc l'état de la damnation. Aussi, en philosophie, on fait toujours cette distinction entre le bien et le mal, mais ce n'est pas au même niveau. C'est-à-dire que le mal en lui-même n'existe pas en tant que tel, hein, en tant que réalité. Il existe en tant qu'il est une négation du bien. Personne ne s'oriente vers un mal pour lui-même, parce que le mal pour lui-même, de toute façon, n'existe pas. Donc, même la personne qui pose des actes mauvais, Par exemple, je sais pas, celui qui, voilà, qui est en train de faire un plan pour braquer une banque, hein, ou pour tuer telle ou telle personne. Bien sûr, c'est un acte mauvais, mais qui, pour la personne qui l'accomplit, comporte un certain bien. C'est-à-dire que c'est bien pour lui que cette personne disparaisse ou de la faire disparaître. C'est bien pour lui de braquer cette banque parce que ça va lui procurer de l'argent et parce que voilà, il va pouvoir faire ses affaires, etc. Donc on est capable de commettre un mal parce que derrière nous avons l'objectif d'un bien. Donc, mais ce bien, bien sûr, il est faussé. Et si nous refusons le bien véritable, eh bien, nous nous tournons vers d'autres biens, nous nous laissons séduire eux-mêmes aussi, c'est la tentation, hein, de se laisser séduire par d'autres biens apparents, mais qui ne sont pas le bien véritable, c'est-à-dire qui ne procurent pas l'état de délectation et de plénitude, hein, que le bien ordonné peut nous procurer. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est important, donc nous partons du bien suprême qui est la béatitude, et après nous regardons ce qui nous empêche, nous entrave, hein, dans cette marche vers la béatitude. Parce que nous sommes encore attachés à des péchés, le purgatoire, parce que nous le refusons, et c'est donc la damnation. Voilà, alors nous marquons une petite pause musicale, et puis nous allons reprendre avec le texte du catéchisme de l'Église catholique sur le purgatoire. Voilà, mais nous entrons maintenant dans cette nouvelle étape, hein, de théologie, hein, sur le purgatoire, donc le purgatoire avant la vision béatifique. Nous allons aussi un peu nous extraire de toutes les représentations que nous pouvons avoir, hein, du purgatoire, représentations artistiques, imaginaires, mystiques, hein, ou idéologiques aussi, pour nous centrer sur ce que nous dit le magistère, c'est-à-dire ce que nous dit l'Église à travers la parole de Dieu et à travers son enseignement permanent. Le catéchisme de l'Église catholique donc nous parle de cette purification finale du purgatoire dans le numéro 1030 et suivant. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort d'une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au Concile de Florence. Alors, le Concile de Florence nous dit, pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts, dont parle déjà la Sainte Écriture. Dans le livre de Judas Maccabée, le deuxième livre de Maccabée au chapitre 12, verset 46, nous lisons « Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Dès les premiers temps de l'Église, on a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Nous lisons par exemple ce texte de saint Jean Chrysostome. Portons leur secours et faisons leur commémoration. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. Donc nous voyons que cet état du purgatoire est un état encore transitoire, bien sûr, qui nécessite la purification de l'âme, qui, selon la tradition de l'Église, encore une fois, selon les enseignements de l'Église, ne peut plus rien pour elle, hein, puisque nos mérites, nous ne pouvons les acquérir que sur la terre. Hein. C'est maintenant que nous pouvons nous orienter vers le bien, et puis poser des actes de charité. Hein. C'est surtout par la charité, bien sûr, que nous pouvons couvrir une multitude de péchés, comme dit saint Paul, mais aussi en usant aussi des moyens de l'Église, en usant aussi de la confession, hein, et aussi de tous les moyens que l'Église, les moyens pénitentiels que l'Église nous donne. Tout cela sur terre, nous est donné, est à notre portée pour que nous puissions nous laver, comme dit le livre de l'Apocalypse, hein, dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire par l'effet des sacrements, la grâce du sacrement, la grâce de la miséricorde de Dieu qui vient purifier, sanctifier, laver nos âmes. À nous alors de profiter de ces grâces du Seigneur tant que nous sommes sur la terre, mais lorsque nous serons bien sûr au ciel, nous ne pourrons plus rien pour nous-mêmes, nous ne pourrons plus satisfaire pour nous-mêmes. Alors fait appel donc la communion des saints. La communion des saints, c'est-à-dire cette communion qui nous unit, nous sur la terre, à l'Église du ciel. Et nous pouvons donc offrir des sacrifices, et en particulier le sacrifice de la messe, le sacrifice eucharistique, pour nos défunts, afin que les âmes au purgatoire bien puissent être purifiées, sanctifiées. Donc nous voyons qu'il y a cette communion qui est importante et qui est aussi la manifestation, l'incarnation encore de la miséricorde du Seigneur. Et donc nous sommes unis les uns aux autres à travers aussi ce mystère de la sanctification des âmes. Et c'est pourquoi nous prions aussi, bien sûr, pour la conversion des pécheurs sur la terre, mais aussi pour la sanctification des âmes du purgatoire. Et il est bon, je le rappelle, d'offrir des messes. Bien sûr, c'est le sacrifice de la messe qui nous obtient le ciel, et c'est le sacrifice de la messe qui purifie nos âmes, qui purifie toutes ces âmes qui sont encore dans l'attente de pouvoir bénéficier de cette purification qui leur permet d'entrer dans la béatitude. Et donc nous avons, nous ici, ce rôle d'offrir pour eux, pour ces âmes aussi, le saint sacrifice de la messe. Et c'est une volonté du Seigneur pour nous, sur son Église, que nous prions aussi, bien sûr, pour toutes ces âmes. Rappelons aussi, dans certaines apparitions de la Vierge Marie, par exemple, ou certains saints aussi, qui ont manifesté aussi cette urgence de prier pour les pécheurs, de prier aussi pour les âmes du purgatoire. Et donc nous pouvons penser à Fatima, nous pouvons penser aussi, bien sûr, à Sainte Faustine, avec le chapelet de la Divine Miséricorde. Et donc, c'est notre mission aussi, pour nous, chrétiens sur la terre, de prier, de faire monter aussi les prières pour la sanctification de ces âmes. L'âme, alors, en elle-même, au purgatoire, souffre d'une certaine manière, puisque elle n'est pas encore dans la vision de Dieu. Elle voit Dieu, elle voit, donc elle est déjà dans une certaine délectation, mais en même temps encore une souffrance parce que ce bien n'est pas encore vraiment possédé. Et c'est donc bien ce que nous allons voir avec aussi l'aide de la théologie et de saint Thomas en particulier, qui sur ce point a été encore une fois un grand maître dont l'Église catholique aussi bien, s'est largement inspirée pour préciser sa doctrine, en particulier dans le Concile de Trente, mais aussi plus tard, et voire même encore dans le Concile Vatican II. L'Église donc, s'appuie sur cette doctrine de saint Thomas pour nous faire, nous aider à préciser en quoi consiste précisément donc cet état du purgatoire. Sur ce dossier, il importe de faire le point, nous dit le père Philippe-Marie Margelidon. Il est en effet fréquent d'entendre et de lire que le purgatoire est de fabrication récente. Or, il est plus ancien que le christianisme. On a vu déjà même dans l'Ancien Testament qu'il y avait une certaine forme de prière expiatoire pour les défunts. Cette formulation technique et théologique qui est récente, elle date du Moyen-Âge. En cela, la thèse sur la naissance du purgatoire est juste. La foi en l'efficacité de prières pour les défunts est une donnée constante de la tradition. À la lumière donc de ce texte tiré du deuxième livre des Maccabées, sur lequel aussi l'Église s'appuie toujours, le purgatoire est une vérité de foi définie par l'Église. Comme nous l'avons lu à travers ces numéros du catéchisme de l'Église catholique, 1030 et suivant. Mais l'Église aussi va s'appuyer sur d'autres documents, d'autres sources, comme la lettre d'Innocent IV aux Grecs du 6 mars 1254, lettre de Grégoire X lors du deuxième concile de Lyon le 6 juillet 1274, le concile de Florence de 1439, le concile de Trente, décret sur le purgatoire du 3 décembre 1563 et décret sur la justification 1547, la Congrégation pour la doctrine de la foi du 17 mai 1979, question concernant l'eschatologie. À travers toutes ces sources, de ces documents, petit à petit, l'Église va préciser cette définition du purgatoire. Tout en se détachant des représentations anciennes du purgatoire, associant un feu et un lieu pour une catégorie de morts, ni parfaitement bons ni totalement méchants, qui ont besoin d'expier et qui viennent du judaïsme. Ce lieu est un compartiment de la géhenne que les chrétiens ont imaginé et conçu comme un lieu de torture ne différent de l'enfer que par la durée et par les peines. Ce qui, sous ces représentations, est capital et profondément biblique, est que la sainteté divine est incompatible avec l'impureté sous toutes ses formes. Jamais rien d'impur, nous dit le livre de l'Apocalypse, n'entrera dans la Jérusalem céleste. Et depuis que le Christ avait ouvert le ciel et promis la vision de Dieu aux pécheurs pardonnés par la vertu de son sang, il allait de soi qu'on songea à une purification complète antérieure à cette vision. Et puisque l'Écriture enseigne que les vivants peuvent intercéder efficacement pour les morts, on a appelé purgatoire la situation d'attente où ces derniers, toujours en chemin si l'on peut dire, ou ont encore la possibilité de satisfaire à la justice divine, à tout le moins le processus de purification et de sanctification essentiel au salut qui a commencé sur la terre, se prolonge et s'achève dans cet état intermédiaire. On ne peut parler d'innovation doctrinale, mais plutôt d'une prise de conscience progressive des données de la révélation. Le terme « purgatoire », dans son sens technique, n'apparaît qu'au XIe siècle, chez Hildebert. Ce terme veut désigner une vie d'outre-tombe. antérieure au jugement général pour ceux qui sont morts dans la grâce et dont l'âme est encore en cours de purification-expiation. Mais l'eschatologie ne s'étant développée que lentement, il existe un certain flottement concernant la perception des formes de vie dans l'au-delà. Les martyrs sont censés parvenir immédiatement à la félicité. Les non-martyrs, par contre, doivent expier les fautes post-baptismales dans une sorte de shéol, selon Tertullien. Le purgatoire a donc un caractère à la fois médical et pénal. Pour Origène et déjà pour Clément d'Alexandrie, les souillures des justes seront purifiées en passant par un fleuve de feu. L'existence de peines purificatrices est affirmée par un nombre de pères de l'Église comme Cyprien, Ambroise, Grégoire de Nice ou César d'Arles. Saint Augustin appuie son enseignement concernant la purification de l'au-delà sur la prière de l'Église pour les morts. L'épigraphie orientale et occidentale atteste que le peuple chrétien prie pour ses morts. Tertullien connaît déjà la célébration eucharistique pour les défunts. De même Cyprien et Cyrille de Jérusalem. Ce n'est pas l'affirmation dogmatique encore du purgatoire. C'est une démarche de prière qui implique une telle affirmation. Lex orandi, lex credendi. C'est au XIIIe siècle que les grandes lignes de la doctrine catholique sur le purgatoire font l'objet d'interventions magistérielles notables, spécialement dans le cadre d'une éventuelle union avec les Grecs orthodoxes. Le texte d'Innocent IV, que nous avons alors considéré, constitue la première détermination magistérielle contemporaine des premières tentatives explicatives de saint Thomas. Innocent IV, dans sa lettre du 6 mars 1954, adressée à l'évêque de Toussouloum, légat du siège apostolique auprès des Grecs, stipule « Puisque la vérité affirme dans l'Évangile que si quelqu'un a blasphémé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le siècle à venir, ce qui nous fait comprendre que certains sont déliés de leurs fautes dans le siècle présent, mais d'autres dans le siècle à venir. Et que l'apôtre dit que le feu éprouvera l'œuvre de chacun selon ce qu'il est. Et que celui dont l'œuvre est consumée en subira la perte, mais que lui-même sera sauvé, mais comme à travers le feu. Et puisque l'on dit que les Grecs eux-mêmes croient et affirment toute vérité, et sans aucun doute que les âmes de ceux qui meurent après avoir reçu la pénitence, mais sans l'avoir accomplie, ou qui meurent sans péché mortel, mais avec des péchés véniels, sont purifiés après la mort et peuvent être aidés par les suffrages de l'Église, étant donné qu'aucun nom certain et déterminé ne désigne chez leur docteur le lieu d'une telle purification, et puisque selon la tradition et l'autorité des saints pères, nous l'appelons purgatoire, nous voulons désormais qu'il soit appelé ainsi chez eux. En effet, ce feu temporaire purifie les péchés, non toutefois les péchés mortels ou capitaux, qui n'auraient pas d'abord été remis par la pénitence, mais les péchés légers, qui pèsent encore sur eux après leur mort, même s'ils ont été pardonnés pendant leur vie. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission pour cette semaine et nous reprendrons donc la semaine prochaine sur ce thème très intéressant, bien sûr, sur l'âme séparée dans le purgatoire en attendant encore de la vision béatifique. À vous tous, alors, chers auditeurs, une bonne continuation, une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission Eschatologie et Prophétie.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.